C'est assez courant au Japon et toute la génération adore le ramen. Ça se mange pour le déjeuner, même le dîner, c'est n'importe quel moment.
Thank you for dinner. It was delicious.
You're welcome.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Un bol qui se remplit progressivement au son du couteau qui est mince, tranche, découpe sur la planche en bois de petits oignons frais, un fond de sauce, de bouillon, champignons, algues, des nouilles et un œuf mollet gourmand déposé sur le dessus, tellement vivant qu'on a l'impression, du fond de son siège de cinéma, que l'on peut sentir le parfum de ce bol de ramen fumant qui envahit l'écran. On aimerait pouvoir le prendre, ce bol, et aspirer les nouilles, comme le font les clients du restaurant de ramen où se déroule la première scène du film. J'ai appris que faire du bruit et de montrer haut et fort que l'on apprécie ce que l'on est en train de manger, en fait, c'est un peu saluer le talent du cuisinier. Vous confirmez, Eric Kou?
You go,
exactement.
And you know, when you do it right, it shows.
Quand on le fait, ça montre qu'on apprécie le plat et ce n'est pas du tout considéré comme étant mal poli. C'est vu comme un grand « j'adore ça ».
Eric Kou, vous êtes singapourien, réalisateur de plusieurs films dont « La saveur des ramen » qui sort le 3 octobre prochain. Le titre en version originale, c'est « Ramen Té ». Il dévoile un peu plus l'intrigue.
Ramen, right, is a Japanese dish.
Les ramen sont un plat japonais et à Singapour, nous avons un plat assez proche mais sans les nouilles qui s'appelle baku thé, ce qui signifie thé de travers de porc. C'est assez mignon. On a créé un plat hybride avec du bouillon de baku thé mélangé avec des nouilles de ramen. Et voilà, c'est un plat hybride.
And together with my friend who makes all types of ramen noodles, we concocted this wonderful bakute broth.
Avec mon ami qui fait toutes sortes de ramen, nous avons concocté ce bouillon de bakute et avons mélangé les deux et c'était délicieux. Tellement délicieux qu'on s'est dit qu'on tenait un truc parce que je n'allais pas faire un film avec un plat hybride qui n'avait pas bon goût. Ça m'aurait pas inspiré. On a aussi joué avec l'idée que notre personnage principal, Masato, était à moitié japonais et à moitié singapourien chinois.
Mais ça, Eric Kou, il va falloir raconter un petit peu. Donc, ramen thé, c'est la rencontre de deux plats, les ramen et les baku thé, deux soupes, deux bouillons, deux identités, à l'image du personnage principal. Donc, le personnage principal, c'est Masato. Je vous propose d'écouter un petit extrait.
My parents are gone. I found my mother's old diary. She wrote about grandmother.
Donc Masato a une trentaine d'années, c'est un jeune chef, il travaille avec son père qui est cuisinier, patron d'un petit restaurant de ramen au Japon. Il s'est enfermé, ce père, dans le silence à la mort de sa femme, la mère de Masato, quand ce dernier était enfant. Lui grandit donc dans le silence et dans le souvenir de sa mère à la recherche d'un goût, celui des soupes que lui préparait sa mère. Alors il passe des nuits et des nuits à cuisiner, à chercher, à expérimenter, comme si retrouver ce goût pouvait le rapprocher de sa mère. À la mort de son père, donc Masato part pour Singapour, l'île natale de sa mère, à la recherche de ce goût pour comprendre d'où il vient. Et avant son départ, il découvre un carnet, qui est le journal intime de sa maman, avec quelques photos, dont une photo de son oncle, qui travaille, lui, dans un restaurant spécialisé dans les baku thé. Donc, Masato, en fait, en découvrant, il rencontre donc l'histoire de sa mère, la photo de son oncle, et également un secret de famille et un pan d'histoire dont il ignore tout. En est-on tellement concentré sur l'aventure humaine et touchante de ce jeune chef, ce goût, Eric Kou, on sent bien que c'est pas du tout un prétexte pour raconter une histoire.
You know, this film is actually dedicated to my mother, you know, who passed away over 20 years ago.
Ce film est dédié à ma mère, qui est morte il y a plus de 20 ans. Je me souviens de beaucoup de ses plats et de leurs saveurs, mais c'est très difficile à reproduire. Quand une mère cuisine pour ses enfants, c'est l'amour qui infuse la nourriture et qui remplit l'âme.
And so, in a lot of ways, for my protagonist, you know, he left Singapore when he was 10 years old.
Mon personnage a quitté Singapour à 10 ans et est devenu un chef de ramen au Japon. Et 20 ans plus tard, il veut découvrir la part manquante de sa vie et part à Singapour.
Et il comprend que ce goût-là indéfinissable, qui est le goût de sa mère, pour retrouver sa mère, il ne peut pas le retrouver, c'est un goût idéal.
To find
Oui, il part pour trouver l'essence de l'autre moitié de lui-même.
Et il a un guide dans cette aventure. Ce guide, c'est Mickey, Miki, c'est une jeune femme qui est japonaise installée à Singapour. Ils se sont rencontrés sur Internet en échangeant des histoires de recettes et d'ingrédients.
That's right, of bakute.
Pour faire son propre bouillon de bakute.
Alors, ce qui est incroyable dans cette balade très gourmande, en fait, c'est qu'il découvre non seulement, bien sûr, Miki, mais il découvre aussi toute cette aventure gastronomique et tout ce qui est Singapour sur le plan gastronomique.
Yes. I mean, Singapore is literally a small little dot with a population of 5 million people, but
Singapour est un tout petit point sur la carte avec une population de 5 millions de personnes, mais la diversité des restaurants et des cuisines qu'on y trouve est absolument incroyable. On peut même trouver un très bon plat pour à peine 3 euros. Singapour, c'est un endroit où il y a eu beaucoup d'immigration, des Chinois, des Indiens, des Malaisiens. Il y a aussi beaucoup d'Européens, des Français. Et quand on mélange toutes ces cultures, toutes ces épices, ça donne naissance à une nourriture qu'on ne trouve que sur cette petite île. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de ces différentes cuisines dans le film.
Dans le
film La Saveur les ramène, bien sûr. Cette histoire de Masato, alors telle que je l'ai racontée pour l'instant, je l'ai racontée de manière très partielle, puisqu'il y a c'est l'histoire familiale va rencontrer la grande histoire avec un grand H, puisque ses identités, ses cultures. Il y a une page sombre de l'histoire du Japon et de Singapour, c'est l'occupation nippone lors de la Seconde Guerre mondiale. Dans le film, Masato se rend dans une exposition qui retrace les années d'occupation. De février 1942 à la fin de la guerre, Singapour avait été renommé Sionanto, occupation brutale et meurtrière.
Le général Yamashita, surnommé le Rommel japonais, ose s'enfoncer avec ses chars dans la jungle de Malaisie. Il capture Singapour, la perle de l'Empire britannique, une forteresse réputée imprenable.
Le récit d'un documentaire, bien sûr, de cette occupation. Cette occupation, il y a plus de 70 ans maintenant. Est-ce que c'est toujours une plaie ouverte, cette occupation?
Yeah, you know, it's like when you have the older population, those like around 80 years old,
les gens de 80 ans ont des souvenirs très tristes. Et l'an dernier, avec la création du musée de la guerre, ça a créé un tollé quand on a voulu l'appeler le Sionanto Gallery, car c'était le nom donné à Singapour par l'occupant japonais. C'est un sujet encore très sensible. Parmi les personnes âgées, certaines ne veulent même pas acheter de télévision Sony.
Vous avez l'âge de votre pays, vous êtes né en 1965. Est-ce que vos parents, vos grands-parents vous ont parlé et raconté cette histoire, dont la plupart, à une époque et une période dans l'histoire, dont peu de livres parlent, dans les écoles en tout cas?
I mean, it was actually... Well, Singapore was ruled by fear and intimidation.
Singapour était dirigé par la peur et l'intimidation. Il y a eu beaucoup de morts, d'exécutions sans raison. Des gens ont eu la tête coupée et exhibée sur des bâtons. Des atrocités qui se sont passées sont présentées dans le musée, où il y a aussi un enregistrement audio de gens qui ont connu la guerre, qui est proposé dans l'exposition.
When I got to the location, my actor Takumi Saito, beautiful actor, was there earlier.
Quand je suis arrivé sur le tournage, mon acteur, Takumi Saito, était déjà là. Et quand il m'a vu arriver dans le musée, il a couru, m'a pris la main en disant « Je suis désolé, je ne savais pas ce qui s'était passé ». Et malheureusement, cette période n'apparaît pas dans les manuels d'histoire.
C'est une découverte pour beaucoup de gens. D'ailleurs, quels échos vous avez eu justement d'avoir osé parler de ce pan de l'histoire? Il y a une scène du film qui est très troublante où on voit ce jeune homme qui est chef, qui arrive à Singapour, qui arrive totalement dans une découverte à la recherche de sa mère et qui arrive dans ce musée et qui découvre donc les horreurs avec ses témoignages, il les entend et il est complètement démuni, on va dire, quand il entend ces témoignages. Donc c'est un vrai choc en fait.
But there are a lot of terrible things that did happen, you know, but it's more like...
Les gens sont horrifiés, des horreurs se sont passées et on se dit qu'il faut tout faire pour que ça n'arrive plus jamais. Mais il faut admettre qu'aujourd'hui, le monde vit une époque difficile, notamment avec Donald Trump. Nous voulions faire un film positif et optimiste et dire qu'il y a de l'espoir.
Parce qu'on, bien sûr, on va pas raconter tout le film. Donc il y a cette grande histoire, elle est amenée par la figure de la grand-mère qui refuse de voir Masato. Et Masato ne comprend pas pourquoi sa grand-mère le renie à ce point. Et il cherche à comprendre, et il ne trouve pas, en tout cas, pas tout de suite, des questions à ses réponses. Et ça va donner lieu à de très très jolies, des scènes très émouvantes. Donc vous avez réussi à mêler en fait les deux cultures dans deux plats et à retisser des liens entre un plat singapourien et un plat japonais.
C'était l'idée. Quand mon producteur japonais Yakuto Tachibana m'a approché il y a quelques années, il m'a dit « Tu sais, un traité a été signé entre Singapour et le Japon. Il y a 50 ans d'amitié. Faisons un film sur l'amitié entre Singapour et le Japon. » Quand il m'a dit ça, j'ai bondi parce que j'adore le Japon, sa cuisine, son esthétique. Et je savais que si on voulait faire une coproduction Japon-Singapour, il fallait que ce soit un film sur la cuisine.
Et donc le père et la mère dans le film se rencontrent aussi autour de cette nourriture. C'est la nourriture qui fait le lien. Une madeleine, peut-être le goût de votre enfance que les bakuté du dimanche.
Yeah, you know, it's because bakuté for me was something I would have virtually.
Je mangeais des bakuté tous les dimanches. Mes parents en achetaient et c'était un peu comme une sorte de brunch. J'ai donc aussi des souvenirs liés à ce plat. Et je sais même préparer les bakuté maintenant.
And I can even cook bakuté now.
Yes,
I've been experimenting and it's
J'ai fait quelques expériences et le résultat n'est pas trop mauvais.
Et on a de la chance parce que dans le vous nous donnez la recette des bakuté qu'on bien sûr on donnera sur la page de rfi.fr les bakuté. Il avait quel goût? Est-ce que vous vous souvenez il y avait peut-être un goût qui dépassait les autres goûts quand vous goûtiez ce bakuté?
Yeah, actually the childhood bakuté I used to have, unfortunately the man passed away. And they don't.
Malheureusement, l'homme qui préparait les bakuté de mon enfance est décédé. Ils étaient un peu différents de ceux qu'on mange aujourd'hui, parce qu'ils avaient une petite touche un peu sucrée. Ils n'y mettaient pas du sucre, je ne sais pas ce que c'était. Mais aussi, le bouillon était un peu plus épais.
Thicker broth, okay. I can taste it in my
Rien
head
qu'en
now,
vous parlant, je sens le goût, mais je n'ai pas réussi à le reproduire, ce qui est dommage, parce que je ne sais pas quel était l'ingrédient spécial qu'il mettait dedans, mais c'était délicieux.
Et comme l'oncle de Masato dans le film, c'est tout un apprentissage aussi.
Yeah.
On doit apprendre, s'entraîner des heures et des heures pour arriver à la...
It is the technique. I mean, if you talk about, let's say, even a Japanese sashimi. Okay, you
oui,
have
c'est to have une question de technique. Si vous parlez d'un sashimi japonais, il faut bien sûr un très bon poisson, mais tout dépend de la manière dont on le découpe. Dans les bakuté, ce qui compte, c'est l'équilibre des ingrédients. J'adore faire du bouillon. Je vais au marché le week-end et j'adore faire des réserves parce que quand on a de bonnes réserves, on peut tout transformer en quelque chose d'autre.
Le goût du monde. Clémence de Navi. Thank you.
pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel sur RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes avec Eric Koo, réalisateur singapourien. Son dernier film, La Saveur des Ramen, sort le 3 octobre prochain. Alors, je m'amuse et je souris parce que pendant que nous écoutions pavane de Maurice Ravel, Eric Koo m'ont confié qu'en fait, c'était une des musiques qu'il aimait beaucoup et qui était dans son précédent film, Wanton Me. Parce qu'il y a beaucoup de piano tout dans La Saveur des Ramen. Donc, est-ce que ça a un écho pour vous?
This music I've loved for a long time. And I love actually French composition.
J'aime cette musique depuis longtemps et j'adore la musique française, la musique de films françaises, comme celle de Michel Legrand et de Francis Lai, que j'adore. Quand j'étais jeune, j'achetais des disques et je jouais beaucoup pavane parce que la musique m'inspire pour écrire. Regarder des films, ça ne m'inspire pas du tout, mais écouter de la musique, oui.
Inspires me.
Si vous cuisiniez un plat qui serait le goût de pavane que l'on vient d'entendre,
I'd create something that is delicate,
sensitive. Je créerais un plat sensible, charmant et spirituel, presque fantomatique, mais pas quelque chose qui fait peur.
Can you teach me how to cook bak te? I always think about mama's cooking. I want to remember them every time I cook bak te.
La mémoire des plats et la mémoire de la cuisine, évidemment, tout au long du film, c'est quelque chose qui est prégnant et dont on se dit que, bien sûr, il y a bien la cuisine, c'est bien plus que des recettes. On a c'est un peu notre marotte ici dans Le Goût du Monde que de le dire. Un jour, vous avez dit, on est un pays très jeune en termes de culture, on n'a pas grand-chose sinon, si ce n'est une vraie identité culinaire.
Yes. You know, I think it's wonderful because, like I said, there's so many different types of races, and it's, in a way,
c'est merveilleux parce qu'il y a tant de nationalités différentes que ça devient comme de la fusion. Les Chinois utilisent des ingrédients malaisiens ou indiens, et les Indiens ont créé la tête de poisson au curry.
Alors là, on parle d'une scène du film, on parle de la tête de poisson au curry. Donc c'est un plat qui est présenté par Miki Amasato et qui lui montre, regarde par exemple, vraiment un plat typique de ce qu'est la cuisine singapourienne, c'est un plat qui se construit.
It's amazing, you know, and because after the war, fish heads were very cheap, and the Indians knew the Chinese.
C'est absolument incroyable. Après la guerre, les têtes de poisson ne coûtaient rien, et les Indiens savaient que les Chinois adoraient la tête de poisson. Ils ont alors décidé de les séduire avec une sauce au curry et au tamarin. Aujourd'hui, c'est très à la mode et c'est délicieux.
C'est fait de quoi? Pourquoi on a d'abord un plat indien à la base, qui ensuite comment est-ce que vous pourriez nous décrire comment est-ce qu'il évolue ce plat?
Well, you know, I mean, I would say with the fish head curry, there are different spices that you can put into it.
Oui, je dirais que dans le cas de la tête de poisson au curry, on peut y mettre différentes sortes d'épices. Mais il y a aussi des variations. Après les Indiens, les Chinois se sont mis à en faire dans une version moins épicée et plus liquide pour boire la sauce comme une soupe.
Et leur tête de poisson est aussi un peu plus amère. Donc, j'ai plusieurs adresses parce que la préparation est différente partout. Je ne sais pas si la recette peut encore évoluer, mais peut-être que si un chef français à Singapour s'y intéressait, il y a tellement de possibilités en matière de cuisine. C'est un défi que vous devez lancer. Donc, les ramen et les bak te sont des plats de soupe populaire dont le succès était finalement assez récent. On apprend d'ailleurs dans votre film que les ramen, à l'origine, sont chinoises. Pour mieux comprendre la place de ce plat dans la gastronomie nippone, je suis allée dans le centre de Paris, à côté du Louvre, chez Ryukishin. C'est un petit restaurant. Les tables sont disposées autour de la cuisine vitrée qui permet à chacun de voir la confection des bouillons, la base, l'or des ramen, nous explique le chef Yuko Shimura.
Donc là, on est rue de Richelieu. Il y a beaucoup de restaurants japonais, de traiteurs, de confiseries qui ont l'air délicieuses.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Oui, c'est la cuisine ici. Je m'appelle Yu Yoshimura. Toute la génération adore le ramen au Japon. C'est pas la cuisine luxe. Ça veut dire au Japon, le prix environ 5 euros, 6 euros, c'est assez courant au Japon. Et tout d'abord, c'est plutôt l'image. Avant, c'était pour le travailleur, c'est comme l'employé, c'est un peu physique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de restos de ramen qui accueillent la famille, le couple. Donc parfois, l'ambiance c'est un peu, comment dire, au Japon, c'est mignon, quoi.
Votre premier ramen,
Il avait quel goût, vous vous en souvenez?
C'était, quand j'étais petit, il y a déjà 20 ans, 30 ans, je crois que c'était ramen, le bouillon à la base de sauce soja. Ce que je me souviens, c'est ma mère qui a fait le ramen après la fin d'école. Samedi après-midi, c'est toujours ma mère faisait ramen pour moi. Ça, c'est une mémoire de mon enfance. Quand j'étais petit, principalement, c'était toujours à la base de soja. Ces derniers 10 ans, 20 ans, c'est ramen, le bouillon de porc. Ça s'appelle tonkotsu, c'est assez courant au Japon aussi.
On la mange n'importe quand dans la journée?
Oui, en fait, ça se mange pour le déjeuner, le dîner, c'est n'importe quel moment.
Est-ce que c'est une soupe?
En fait, le ramen, c'est des nouilles qui sont dans le bouillon. Ça, c'est le ramen, le bouillon chaud.
Quand on n'a pas grand-chose avec soi, qu'est-ce qu'il faut avoir pour faire un bol de ramen?
Normalement, ramen, c'est toujours, on utilise des produits animaux pour faire le bouillon. Parfois, le porc, chez nous, par exemple, on utilise le carcasse de canard et de poulet. Mais si c'est végétalien, on peut faire aussi avec les légumes.
Est-ce que c'est un plat de pauvres?
Au Japon, même s'il y a les gens qui sont des gens riches, des gens pauvres, c'est au monde de ramen. On ne distingue pas.
Et vous cuisinez essentiellement des ramen ou c'est un des plats que vous préparez?
Non, essentiellement le ramen pour l'instant. En fait, chez nous, à Rukishi, on a trois bouillons. Dont un, c'est le chintan. Deuxième, c'est paitan. Les deux sont toujours à la base. Le bouillon, c'est le base de carcasse de canard et de poulet, plus des légumes. Alors pour faire le chintan, ça prend 7 heures au moins. Et le paitan, 5 heures au moins. Après, le bouillon de vegan, vu qu'à Paris, il y a de plus en plus la population de vegan augmente. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour le vegan. Parce que là, pour le vegan, le bouillon à la base de légumes, ça prend 3 heures quand même.
Qui c'est qui vous a appris, vous, à cuisiner des ramen?
C'est le fondateur qui s'appelle Matsubara. C'est lui qui m'a appris comment faire ramen au Japon. 1 an, 2 ans, ça prend beaucoup de temps pour maîtriser parfaitement comment faire de ramen. Du coup, pour l'instant, moi aussi, je suis en train de s'entraîner à apprendre qu'est-ce que c'est ramen.
Comme ça, on peut ajouter après des parfums de chez soi.
Oui, c'est possible. Du coup, après qu'on a maîtrisé la base, on pourra ajouter, par exemple, le parfum de yuzu. Yuzu, c'est assez connu en France, je crois.
Vous venez d'où au Japon?
Moi, je viens d'Osaka, par hasard. Le Rukishi aussi est Osaka, par hasard.
Donc vous avez des goûts, alors, des parfums et des saveurs qui se retrouvent?
Oui, c'est possible. En fait, chez nous, à Rukishi, la soupe, c'est toujours de sel. Donc, c'est assez légère. Donc, ça ne gêne pas d'autres goûts. Dans ce cas-là, normalement, ça va bien avec agrumes, comme citron, orange, tout ça. Donc, j'aimerais bien essayer de faire de ramen avec une sorte d'agrumes.
Je veux bien la goûter.
Ah, avec plaisir.
Volontiers. La base, déjà, on a un bouillon. Alors, il y a une immense casserole qui doit faire quelque chose.
Une casserole, dedans, donc, une carcasse de bolaï. Et puis des algues, champignons, choux chinois, tout ça.
Du gingembre, je vois.
Ouais.
Et l'ail, vous le mettez en entier dans le bouillon.
Oui. Ça donne le goût, en fait. C'est la première une heure, on fait cuire des carcasses avec le feu très fort. Après, au Japon, on dit que ça, c'est comment on dit? On couche le bouillon pendant 6 heures.
Comme ça, on le laisse reposer, en fait. Il s'infuse et il garde tous les parfums.
Oui, tranquillement, tout ça.
Et ensuite?
Elle est en train de préparer le bouillon. C'est pour le ramen tout de suite. Dès la commande, elle utilise le bouillon chaud. Donc ça, c'est le chintan. Chintan, c'est plus léger. Et le paitan, c'est plus, comment dire, crémeux.
Est-ce que le paitan, c'est celui qui se trouve à côté?
Oui, c'est le bouillon blond, c'est paitan. Le bouillon transparent, c'est le chintan.
Et c'est tiré de ce bouillon-là qui est dans
exactement,
la grosse marmite?
Exactement.
Je suis très intriguée. Ces œufs-là, ils sont
ça, c'est ouf, mariné. Ça veut dire qu'on, tout d'abord, on fait cuire des œufs dans l'eau chaude certaines minutes. Et puis, on laisse tranquillement dans le bouillon, fait maison, au moins un jour. Parce que l'œuf absorbe le bouillon.
Et ça, c'est tempura de?
Tempura de poireau.
Il y a toujours l'oignon, la ciboulette, l'oignon frais.
Ça c'est des oignons frais.
Donc ça, vous avez toujours ça, comme un orgue, comme un piano. Et vous,
Ah oui, exactement. Après, les tranches de canard, de poulet. Chez nous, en Rukishi, on n'utilise jamais du porc. Comme ici, en France, il y a beaucoup de musulmans. Strictement, c'est interdit de porc.
D'accord.
C'est pour ça, c'est, chez nous, la porte est toujours ouverte. C'est pour les musulmans, pour les sœurs qui ne mangent pas de porc.
Il y a trois sauces.
Ça, c'est huile, aussi la soupe de sel, uniquement pour les végans. Ça, ça s'appelle yukihira en japonais. C'est, on utilise, c'est uniquement pour le ramen et le plat avec la soupe. Vous voyez, il y a deux bouches.
Et ça, on en trouve à Paris ?
J'ai vu une fois, c'est à Belleville. On a une petite cuillère pour huile, aussi pour la soupe de sel. Donc on a essayé plusieurs fois, c'est jusqu'à ce qu'on arrive à le goût idéal. Ça c'est le résultat.
D'accord.
De mille fois d'essai.
De mille essais pour le goût idéal.
Ouais, goût idéal.
Le goût idéal. Vous l'avez déjà peut-être goûté, Eric Kou ?
Well, you know, yeah, I'd say it's in my mother's soups. You know, her broth, it's,
vous savez, je dirais que c'est le goût des soupes de ma mère, de son bouillon. Il était délicieux. Je l'ai mis dans le film. C'est la soupe de racines de lotus.
Oui, oui, quand elle est enfant dans les souvenirs de Masato, quand il s'en souvient. Vous aimez déambuler et tester à la manière d'un gourmet solitaire. Là, je pense à Jiro Taniguchi.
I love going to the markets. You know, to look at the fresh produce. So that's what I normally do.
J'adore aller au marché pour les produits frais. C'est ce que je fais le samedi matin dès 5 heures. Je vais voir les étals de légumes, j'achète du poulet, du porc. En France, vous avez des marchés dans les rues où l'on voit des faisans pendus.
It's so nice to.
Je ne sais pas où vous voyez des faisans pendus, mais c'est pas très fréquent.
Yeah, they're dangling at the stalls or like the birds. And it's just so nice. I mean the visual stimuli of all that lovely food and.
Si, ils sont pendus comme des oiseaux. C'est vraiment très agréable de voir toute cette belle nourriture. J'aimerais vraiment avoir accès à certains ingrédients que vous avez ici. Malheureusement, dès qu'on doit importer des ingrédients, ils ne sont plus aussi bons après le transport, surtout en avion. Et quand je suis à l'étranger et que je vois ces bonnes choses, je ne peux pas cuisiner parce que je n'ai pas de cuisine. C'est un peu frustrant. Mais bon, j'adore flâner.
Dans vos films, souvent, on retrouve tout plein de petits restaurants qui sont cachés dans des petites rues. C'est vraiment l'image de la street food, la cuisine de rue. Est-ce que pour vous, cette cuisine de rue, ça représente le reflet de la vraie cuisine ? Est-ce que c'est le visage de la vraie cuisine ?
You know, I mean, for me, it's hawker fare. It's the street food that I love, that costs like 3 euros for a whole meal.
La cuisine que je préfère, c'est celle qu'on mange dans la rue, celle qui coûte 3 euros le plat. Il y a beaucoup de plats que j'adore et qui sont montrés dans le film, dans des plans très rapides. Il y a un plan de nouilles avec de la sauce épicée et des raviolis de porc. C'est mon plat préféré. On appelle ça wonton mee. Je vais sur ce stand au moins une à deux fois par semaine. Je suis complètement obsédée. J'ai été absent pendant un bon moment entre les festivals de Toronto, de Saint-Sébastien et mon séjour ici. Et je meurs d'envie de manger ce wonton mee. Dès que je serai rentrée, vendredi, je vais foncer là-bas, car c'est ouvert de 17h à 2h du matin et je vais manger deux bols.
Eat and eat and eat and eat. Et c'est cette histoire de proximité avec les gens qui font cette cuisine-là aussi, qui est une cuisine assez familiale.
Yes, because the thing is...
Essential and true, no hypocrisy.
Because he will see me, he will talk to me, that it's a mother and son team.
C'est un endroit qui est tenu par une mère et son fils. Et le fils me donne toujours plus d'épices parce qu'il sait que je l'aime comme ça. Je mange juste à côté du stand et il voit combien j'aime son plat. Parfois, quand il ferme pour les vacances, il me donne de l'huile, des épices et de la sauce soja spéciale que j'utilise pour faire mon propre wonton mee.
I will use his sauces and make my own wonton mee.
Wonton mee, c'est une passion chez Eric Kou puisqu'il en a fait même un film. Je vous propose d'écouter un petit extrait de ce film.
I am a food critic. I get to eat a wide variety of food for work. But even if I have to go and review a champagne brunch at noon, there's nothing like starting my day with soft-boiled eggs and kopi C.
Habitué des dîners au champagne, que rien ne régale plus qu'un œuf mollet, c'est tout un art l'œuf mollet, un délice quand il est fait à l'ancienne. J'étais en train de traduire le petit bout d'extrait qu'on a entendu. Ça, c'est la vraie valeur aussi. Ça, c'est aussi cet œuf mollet, this egg.
Soft-boiled egg.
Il est cuit comme son père le cuisait. Est-ce que c'est important pour vous cette transmission?
Very much so. Because you know, I've like my grandmother made me really fantastic soft-boiled eggs when I was growing up.
C'est très important. Ma grand-mère me préparait un œuf mollet exceptionnel quand j'étais petit. D'abord, vous cassez l'œuf.
Right.
Il tombe comme une balle. Et ensuite, quand on le coupe, le jaune dégouline. C'est délicieux. Mais je ne mets pas n'importe quelle sauce dessus. J'ai une sauce très épaisse, noire, un peu sucrée, comme dans mes souvenirs d'enfance. L'autre est un peu comme la sauce de soja Kikkoman, un peu salée. Juste le bon mélange. Et je mange mon œuf mollet d'une certaine façon. D'abord, tout le blanc. Et après, le jaune.
Sans casser le jaune.
Yes. So you just cut around it, so it's still sitting there.
On coupe le blanc tout autour du jaune, et on se retrouve avec deux jaunes un peu orangés qui nous regardent. Il y a aussi un plat français que j'adore, dont j'oublie le nom.
L'œuf bénédict. J'aime
l'œuf bénédict, mais c'est un autre œuf où l'œuf est poché dans une sauce au vin rouge avec des lardons. C'est délicieux.
Ah oui, c'est très très bon. Donc lardons. Œuf mollet sur une petite sauce au vin rouge, c'est absolument délicieux.
My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds a key. My body is a cage that keeps me from dancing with. Standing on the stage of fear and self-doubt, it's a hollow play, but the clap anyway. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds a key.
Arcade Fire dans le goût du monde, My Body is a Cage, Eric Kou. Le corps comme une prison, est-ce que ça vous parle, mon corps comme une prison?
Not really, it's a cage for the soul. I cannot astro project out, I'm stuck inside.
Pas vraiment, c'est une prison pour l'âme, je ne peux pas m'en extraire, je suis coincé dedans. Yeah.
Bon, nous parlions, juste avant d'écouter Arcade Fire, nous parlions bien sûr de nourriture, de cet œuf mollet qui nous a fait fondre d'envie. Mick Pokman, c'est votre premier long métrage. Ensuite, on a eu Wanton Me. La nourriture, c'est un peu une folie chez vous, une espèce de fil constant.
I love food. I really love. I live to eat.
J'adore la nourriture. Je vis pour manger.
Pour filmer la nourriture telle que vous faites, elle est très présente, c'est étonnant, on dirait qu'elle est incarnée cette nourriture. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous, hein, mais c'est ce que j'ai ressenti. Comment est-ce que vous travaillez vos scènes de cuisine?
I should do a 3D movie.
Je devrais faire un film en 3D.
Je ne suis pas sûre. I was already starving. Parce que vous travaillez avec des chefs.
Yeah, so I mean, definitely in the case of ramen, right? I mean, my director of photography, Brian
Dans le cas de la saveur des ramen, mon directeur de la photo, Brian Gotong-Tan, prête attention aux détails et il a un sens esthétique très sûr. Il est aussi très gourmand. Il connaît les plats dont on parle et à la fin du film, comme nous sommes sortis dîner, nous avons trouvé un endroit où la cuisine n'a pas de plafond. Elle était éclairée seulement par la lumière naturelle. Et bon, il sait quel objectif utiliser, donc je l'ai laissé faire et il a produit des images qui ont donné faim à beaucoup de gens.
Et la question que je me posais, c'est la nourriture, c'est elle est très graphique,
yes.
Elle est très belle. Vous, vous avez été illustrateur, vous avez dessiné. Est-ce que cet œil-là, il intervient aussi dans votre façon de filmer la nourriture également?
Yes, sometimes I will just sketch simple storyboards, you know, and.
Parfois, je dessine des storyboards très simples pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. En fait, moi, j'aime aller vite, qu'on soit spontané, capturer l'instant. On a tourné le film en 18 jours. J'avais une équipe géniale et j'avais en tête visualiser beaucoup de choses. Par exemple, la scène d'ouverture était entièrement dessinée.
Je veux voir ces dessins.
<They're quite ugly. rire>
Parce que la scène d'ouverture est juste terrible. Mm-hmm. Tellement, elle est graphiquement magnifique. L'image est sublime. On n'a qu'une envie, c'est de manger. Et tous les ventres dans la salle, je vous assure, gargouillaient. For eating. Qu'est-ce que représente la nourriture pour vous? Parce que oui, on a bien compris que vous êtes un gourmet, que vous aimiez manger, manger pour vivre, vivre pour manger. Mais qu'est-ce qu'elle représente réellement pour vous, cette nourriture? Est-ce que c'est une forme de langage?
You know, I think the whole thing about eating and eating with people that you love, it's the communion.
Je crois que manger et manger avec des gens qu'on aime, c'est une forme de communion. Ce qu'on retire du plat, les souvenirs qu'on en garde. J'ai des souvenirs très précis de repas avec ma mère, mon père, mes frères et sœurs quand on était petits. C'est tellement agréable que parfois quand on mange quelque chose qu'on n'a pas mangé depuis longtemps, c'est comme une envie irrésistible, comme quand on entend un morceau de musique ou quand on sent une odeur. Ça crée une sorte de connexion. J'aime aussi le sentiment que la nourriture peut guérir, que c'est un élément de réconciliation, de pardon et d'amour. Je ne suis pas seulement gourmand par gourmandise quand je pense au hot dog et à la baguette en bas. Ça signifie bien plus. Hier soir, par exemple, j'ai dîné avec Takumi Saito. On était vraiment très heureux de dîner ensemble et à la fin, il s'est mis à pleurer. Et il a dit, vous êtes tous devenus ma famille. Pour moi, faire ce film a été un vrai parcours spirituel. Parce que, par exemple, des membres de l'équipe japonaise, avec qui on a travaillé pour la première partie du film, nous ont rejoints à Singapour pour le reste du tournage, alors qu'ils n'avaient absolument pas besoin d'être là. On a vraiment créé un beau lien par ce film et par la nourriture. On a vécu ce que nous essayons de dire dans le film, et ça, c'est vraiment magique.
Which is magical.
La nourriture a cette valeur aussi particulière que parfois on a l'impression de manger l'identité de l'autre. On se nourrit aussi des goûts. On n'a pas besoin de parler et de vocabulaire pour goûter et pour rencontrer l'autre. Est-ce que ça, c'est aussi un vecteur pour vous?
You know, you pass them the stuff, you know, and that's what I like also, like to share food.
Oui, on se passe les plats et c'est aussi ce que j'aime, partager la nourriture.
Yeah.
Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous cuisinez pour dire que vous aimez?
Oh, actually, I seriously love to make.
I love to make
sauces.
J'adore faire les sauces et aussi les pâtes. Et j'ai aussi une bonne recette de crevettes à l'ail. Parfois, je cuisine un peu chinois, parfois c'est un peu occidental, mais je sais ce que j'aime, et quand j'aime, j'en mets beaucoup. Et par exemple, l'ail. J'aime frire l'ail. Et puis aussi des ingrédients comme le céleri, les poireaux, les oignons, les champignons. Je fais aussi une très bonne soupe tom yum, une soupe thaïlandaise épicée.
D'accord, with a bit of spirit,
yes,
in it.
Yes, spirit.
Avec un peu d'esprit et qui vous réveille. Eric Kou, la question que je me posais aussi, puisque vous nous avez dit cuisiner, vous devez avoir aussi des ingrédients, un ustensile favori peut-être.
You know, I love to simmer stuff.
Vapeur.
In la crocette. pot.
J'adore cuisiner dans le croisé.
And I also like to make like stews.
Je fais des ragoûts. J'adore faire réduire quand on voit la sauce caramélisée avec les légumes et la viande. Je trouve ça très thérapeutique parce que cuisiner du début jusqu'à la fin permet de voir tout un développement. Et parfois, un ragoût cuit pendant des heures à feu doux. Ça me plaît beaucoup.
Est-ce que c'est une forme de méditation également, la cuisine? Is it a form of meditation?
It is therapeutic, very therapeutic, you know, and it's cool.
C'est effectivement très thérapeutique. C'est super, le week-end on va au marché à 5 heures du matin, on achète des ingrédients frais, puis on commence à découper et à cuisiner vers 7 heures, 8 heures du matin et c'est prêt à être dévoré au déjeuner.
On mange dans la saveur des ramen, mais qu'est-ce qu'on boit? Est-ce qu'on boit du thé justement?
Yes, tea is really really good with bakute.
Oui, le thé est très bon avec le bakute.
I mean, it's just like, you know,
c'est un peu comme le vin rouge avec un plat français, avec un bon Bordeaux. Mais chez moi, généralement, on boit de l'eau fraîche avec du jus de citron.
Tout simplement.
Yeah, simple.
Very simply.
And ice cubes, because Singapore is very hot.
Et des glaçons, parce qu'il fait chaud.
Quand on regarde votre film, on découvre aussi l'origine chinoise des ramen. Ce sont deux plats populaires, mais dont le succès
actually,
est assez récent.
Ramen started around like the 1900s in Japan, and
les ramen ont commencé à être mangés au début du 20e siècle au Japon, à la même époque que les bakute. Les bakute étaient la nourriture des travailleurs pauvres qui portaient de lourdes charges et avaient besoin d'un bouillon nourrissant. Donc ils utilisaient les os de porc avec des herbes qu'ils faisaient bouillir. C'est l'origine des bakute. Les ramen, même aujourd'hui, c'est de la soul food, de la cuisine de rue, c'est pas cher.
You eat that in 10 minutes and it gives you the sustenance to work the whole day, you know?
Un bon bol de ramen mangé en 10 minutes vous donne la force de travailler toute la journée. Quant aux bakute, après une origine très humble, ils ont évolué. Maintenant, les vieux en font avec des travers de porc australiens. Et après avoir mangé les bakute, on boit du thé et on parle du bon vieux temps pendant une heure. C'est un concept très spirituel.
A spiritual concept is lovely.
Et ça, c'est des instants de mémoire.
Yeah.
A very meal, it is fantastic. À Berlin, où votre film était projeté, dans la section culinaire, remporté un franc succès à tel point que 4 chefs cuisiniers se sont dit, je vais m'emparer de cette recette et je vais l'interpréter à ma manière.
Well, you know, actually, the irony is, when we had wonton mee,
quand Wonton Mee a été présenté à Berlin, ils ont fait leur propre crabe épicé. C'est un plat de Singapour. Mais ils l'ont réinterprété d'une façon délicieuse, mais qui n'avait absolument pas le goût du crabe épicé de chez moi.
But it didn't taste like the chili crabs from back home, right? And this time round with
cette fois avec la saveur des ramen, le chef a dit que quand il a vu le film, il a pleuré parce qu'il adore sa mère, qu'il a beaucoup inspiré.
The mother is his inspiration. He didn't make a ramen, he didn't make bakute, but he made some stuff that I tell you.
Il n'a pas préparé des ramen ou des bakute, mais un plat dont les saveurs ont littéralement explosé dans ma bouche. Et il m'a donné une magnifique portion. J'étais vraiment très heureux. Il n'a pas arrêté de me resservir. Il m'en a donné autant que je voulais. C'était fantastique. En fait, moi, j'aime quand on adapte. Lui, il voit un plat, ça lui donne une idée, et il produit un plat extrêmement créatif.
Est-ce que c'est important pour vous de connaître l'histoire d'un plat?
Very much so. You know, and I already knew about ramen. I've read about ramen that, you know, you've got the northern.
C'est très
ramen.
Important. Je connaissais l'histoire des ramen, j'avais lu dessus, sur les ramen du nord, les ramen du sud, sur ses origines humbles. Et quand on parle de cuisine japonaise, ce qui a d'abord marché, c'est bien sûr les sushis. Et aujourd'hui, les ramen ont beaucoup de succès. Mais les ramen qui marchent sont les tonkatsu, avec du bouillon de porc et différentes variantes de bouillon plus ou moins gras. Et ces ramen-là viennent du sud. Ça marche bien aux États-Unis, partout, et même à Singapour. Dans mon film, ce sont les ramen originels qui ont été créés il y a des siècles. Ce sont les ramen soyu, faits avec des os de poulet. C'est ce que mon Masato cuisine. C'est un bouillon délicieux.
Ok. And so, with bakute, I mean, like,
j'adore les bakute depuis que je suis enfant. À Singapour, j'en ai essayé beaucoup de sortes et je sais lesquelles j'aime. Il y en a tellement. C'est un plat très, très célèbre. Par exemple, mes amis japonais qui vivent à Singapour, après avoir beaucoup bu, ils mangent des bakuté. Alors qu'au Japon, après avoir beaucoup bu, ils mangent des ramen. C'est pour guérir la gueule de bois du lendemain.
Pour se guérir un peu. Ça, c'est une très belle leçon à l'histoire des relations entre le Japon et Singapour. Les Singapouriens adorent la nourriture japonaise.
To
eat Japanese food.
They save up money, they just go there for one week and eat like mad.
Ils économisent pour y aller une semaine et manger comme des fous. Par exemple, les sashimis sont très chers à Singapour, alors qu'au Japon, c'est un tiers du prix et que ce sont des buffets. En fait, c'est une obsession nationale. Nous avons 180 stands de ramen à Singapour et plus de 1000 restaurants japonais avec différents types de gastronomie japonaise. À la pierre chaude, tempignaki, sukiyaki, c'est complètement dingue.
Et rien n'a le même goût. Certains pourraient penser que c'est de la cuisine d'un continent, la cuisine de l'Asie, qu'il y a un fil conducteur, mais non. Tout est complètement différent.
So different, you know. I mean, you talk about, let's say, Japanese food.
Toutes les cuisines sont très différentes. Singapore, les cuisines japonaises, chinoises, singapouriennes sont complètement différentes. Il est facile de trouver de la cuisine cantonaise. On mange des dim sum, mais on ne trouve pas facilement de cuisine de Singapour. En fait, il y a ici à Paris un restaurant singapourien qui a ouvert. Ça s'appelle The Hood, dans le 11e. J'ai essayé les bakuté. Ils sont très bons. Essayez de trouver ce restaurant sur Google et allez-y.
Bien sûr, on va donner l'adresse de ce repère dans lequel on peut manger des bakuté parce que je peux vous assurer que quand vous ouvrez la saveur des ramen, vous n'aurez qu'une envie, c'est de manger des ramen et des bakuté.
And the chef is a young Vietnamese girl.
La chef est une Vietnamienne qui a gagné Masterchef en 2015.
Merci, merci Ericou, merci pour ce partage. Belle aventure au film, La saveur des ramen qui me fait pleurer des rivières. Cécile Bonissier a réalisé cette émission sur la page internet du Goût du Monde. Les recettes des ramen, des bakuté et une surprise, la recette African Touch du bakuté par Karit Kindo.
Bonsoir Clémence, je suis très heureuse de partager avec vous depuis Ouagadougou ma version African Touch du bakuté. Ce qui m'a inspiré dans le bakuté, c'est que c'est l'un de ces plats qui, au-delà de nous régaler, prend soin de notre santé. De Singapour à Ouagadougou, le bakuté, c'est à cocuner du moringa. Le moringa, ou arbre de vie, est un arbre des régions tropicales qui, de la racine aux fleurs, regorge de vertus. Pour la recette, j'ai utilisé les feuilles et les graines au léger parfum de réglisse, accommodé à de la cannelle, du clou de girofle, de la cardamome, du gingembre et du piment. C'est un bouillon de santé explosif. En clin d'œil à l'émission de la semaine dernière, je l'ai accompagné de boulettes de riz. Je vous invite à venir découvrir l'intégralité de la recette sur la page Facebook de l'émission. Et je vous souhaite un délicieux week-end.
Merci Karine, on est tellement heureux de ce partage. Bonne semaine à tous, tout de suite, le journal sur RFI.